Le Monde aujourd'hui. À Washington.
C'est quoi ? Bonsoir à tous, c'est Kabadou avec vous. Bienvenue dans cette édition Le Monde aujourd'hui du mercredi 17 juillet 2019. Il est 19h30 en temps universel. Voici les titres. Au Soudan, les généraux et les meneurs de la contestation ont signé un accord sur le partage du pouvoir. À Goma, en République démocratique du Congo, colère des habitants après le meurtre d'au moins deux personnes dans des actes de banditisme. Aux États-Unis, la Chambre des représentants, dominée par les démocrates, a condamné les commentaires qualifiés de racistes de Donald Trump. El Chapo, considéré comme le plus grand néo-trafiquant condamné à la prison à perpétuité aux États-Unis. 50 ans après, l'Amérique se souvient des premiers pas de l'homme sur la Lune. Au Bénin, cet événement a été suivi de très près. Juste après le journal, nous irons à la CAN pour la petite finale aujourd'hui entre le Nigeria et la Tunisie, avant la grande finale de vendredi entre l'Algérie et le Sénégal. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a déclaré que l'épidémie d'Ebola, qui a fait près de 1700 morts depuis l'été dernier en République démocratique du Congo, était désormais une urgence sanitaire mondiale. Aussi, l'épidémie de rougeole en cours en RDC a tué presque autant que les deux autres épidémies, Ebola et de choléra réunies, selon l'OMS, qui tient ce mercredi une nouvelle réunion d'urgence sur Ebola à Genève. Violence à Goma, la grande ville de l'est de la RDC, au moins deux personnes ont été tuées hier soir dans des actes de banditisme provoquant la colère des habitants. Le point avec Abdourahmane Dia.
Des centaines de personnes ont manifesté ce matin en transportant l'un des corps vers la morgue avec parfois des chants hostiles à la police et à l'armée. Tout a commencé par l'enlèvement de deux personnes qui a mal tourné hier soir dans le nord de la ville. L'une des victimes a résisté et refusé d'être amenée en brousse. L'homme a été tué par balle sur le champ. Une autre personne se trouvant à côté, voulant savoir de quoi il s'agissait, a aussi été assassinée, a indiqué le commissaire provincial par intérim du Nord Kivu, Van Kasongo. Il y a aussi quatre blessés par balle, a-t-il ajouté. Un manifestant s'est demandé pourquoi des gens meurent alors qu'il y a un poste de police. « Nous sommes en colère, nous ne sommes pas protégés par la police », a ajouté un autre. L'insécurité est un problème récurrent à Goma. Par ailleurs, un premier cas d'Ebola a été diagnostiqué à Goma. Le patient est décédé lors de son transfert vers Butembo, au nord de Goma.
Toujours en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi, qui a lancé son quinquennat avec de grands travaux pour améliorer la vie quotidienne des Congolais, est descendu ce mercredi dans l'arène de ce chantier routier qui aggrave pour l'instant les bouchons monstres à Kinshasa. En République centrafricaine, les combattants de trois groupes armés ont déposé les armes dans l'ouest du pays, ont annoncé les représentants de la MINUSCA, la mission des Nations Unies en Centrafrique. Ce désarmement intervient dans le cadre du programme de désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement lancé en décembre 2018 par les autorités. La situation sécuritaire reste fragile en Centrafrique, forçant un quart des 4,5 millions d'habitants à fuir leur domicile. Au Soudan, les généraux au pouvoir et les meneurs de la contestation ont signé aujourd'hui un accord sur le partage du pouvoir. Cet accord, arraché à l'issue des négociations qui ont duré toute la nuit, constitue un premier pas vers un gouvernement civil, principale revendication des contestataires. Eric Manirakiza a joint à Khartoum le journaliste et activiste Salah.
Les premières dispositions de transition et le Conseil souverain. 5 militaires choisis par le Conseil militaire de transition et 5 membres choisis par le Conseil de déclaration de liberté et de changement. Outre les 10 membres déjà mentionnés, une personnalité civile choisie par consensus entre les parties demandera le conseil. Alors c'est un conseil de 11 personnes, 10 militaires, 10 civils, et puis une personne choisie par les deux. Le conseil de conseil sera présidé durant les premiers 21 mois, à compter de la date de signature du présent accord, par l'un des membres militaires de ce conseil. Alors, dans les 18 mois qui restent de la période de transition, il sera présidé par l'un des membres civils du Conseil. Un décret constitutionnel sera établi pour déterminer les attributions du Conseil souverain. Je pense que l'accord n'est pas complet, il n'a pas répondu à toutes les exigences et les conditions des personnes révoltées, mais il établit des bases de mener le Soudan à des horizons de prospérité, de démocratie, de respect des droits de l'homme.
Salah, journaliste et activiste à Khartoum. Les plus hautes autorités sénégalaises ont rendu un hommage national ce mercredi au dirigeant socialiste Ousmane Tanor Dieng, ex-collaborateur des présidents Léopold Sédar Senghor et Abdou Diouf, décédé lundi en France. Les juges de la CPI ont mis à l'écrit leur motivation sur l'acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Les magistrats démontent point par point les poursuites contre l'ancien président ivoirien et l'ex-chef des Jeunes Patriotes à la suite de la dernière élection présidentielle en Côte d'Ivoire. La commission sud-africaine qui enquête sur la corruption a suspendu l'audition de son numéro 1, l'ancien président Jacob Zuma, qui s'est plaint du ton à ses yeux trop insistant des questions qui lui sont posées. L'ex-chef de l'État nie toute implication dans ses affaires de corruption en criant à la calomnie et en dénonçant un complot destiné à l'éliminer, voire l'assassiner. Le témoignage de l'ancien président doit reprendre vendredi matin si un accord a été trouvé d'ici là juste sur ses modalités.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, la Chambre basse du Congrès américain a adopté hier une motion condamnant des propos jugés racistes du président Donald Trump, une accusation qu'il rejette en bloc tout en continuant d'attaquer les quatre élus démocrates issus des minorités. Salwa Jafari.
Le démocrate John Lewis, membre de la Chambre des représentants.
I rise with a sense of righteous indignation.
Je me lève avec indignation pour soutenir cette résolution. Je reconnais le racisme quand je le vois.
I know racism when I feel it.
Je connais le racisme quand je le sens. Et au plus haut niveau du gouvernement, il n'y a pas de place pour le racisme.
There's no room for racism.
La majorité de la Chambre a voté pour un texte qui, je cite, « condamne fermement les commentaires racistes du président américain, légitimant et accentuant la peur et la haine des nouveaux Américains et des personnes de couleur ». En réponse à la motion du Congrès, Donald Trump a appelé les élus républicains à ne pas tomber dans le piège tendu, selon lui, par ses adversaires. Puis il persiste et signe « Notre pays est libre, magnifique et prospère. Si vous le détestez ou si vous n'êtes pas heureux ici, vous pouvez partir. » Ces déclarations ne semblent pas nuire à la popularité de M. Trump dans sa base. Son taux d'approbation a même gagné 5 points à 72%, selon un sondage de Reuters, IPSOS, réalisé lundi et mardi.
Le narcotrafiquant mexicain Joaquim Guzman alias El Chapo a été condamné par un juge de New York à la perpétuité, symboliquement assorti de 30 années de prison supplémentaire. Le point avec John Lyndon.
Les avocats du narcotrafiquant ont déjà annoncé qu'ils vont faire appel. El Chapo a été reconnu coupable le 12 février et le juge fédéral Brian Kogang l'a condamné à l'emprisonnement à perpétuité assorti de 30 ans de prison supplémentaire. Durant le procès, l'accusation a montré que le Mexicain a ordonné l'assassinat ou mis lui-même à mort au moins 26 personnes. Il aurait acheminé aux États-Unis au moins 1200 tonnes de cocaïne sur un quart de siècle. Le juge a aussi ordonné la saisie de 12,6 milliards de dollars qui correspondraient aux gains tirés du trafic de drogue. La justice n'a pas été rendue à 17 hommes de 62 ans dont le parcours a commencé dans les champs de cannabis de Sinaloa. Il devrait purger sa peine à l'administrative Maximum Facility à Florence, dans le Colorado. Surnommée l'Alcatraz des Rocheuses, cette prison au milieu de nulle part est considérée comme la plus sûre des États-Unis.
En Grande-Bretagne, les candidats au poste de Premier ministre britannique vont répondre ce mercredi aux militants conservateurs sur leur stratégie pour le Brexit. Et puis, l'Afrique du Sud a rendu hommage ce mercredi à son Zoulou blanc, le chanteur Johnny Clegg, qui s'est éteint hier à l'âge de 66 ans, en louant son rôle dans la lutte contre l'apartheid et la réconciliation entre les races. Pour le chef de l'État, Cyril Ramaphosa, Johnny Clegg vivra toujours dans nos cœurs et dans nos foyer. Johnny Clegg, qui est décédé mardi à son domicile de Johannesburg des suites d'un cancer du pancréas. Il était né en Grande-Bretagne. Johnny Clegg avait puisé dans la culture zoulou son inspiration pour concevoir une musique mêlant rythme africain et pop occidental, défiant ouvertement le régime de l'apartheid. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. On enchaîne sur le journal de la CAN avec Yacouba Ouédraogo.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le journal de la CAN. La Tunisie et le Nigeria s'affrontent présentement pour la troisième place de la Coupe d'Afrique des Nations. Lors de la petite finale, après des demi-finales à rebondissement et au dénouement cruel pour eux, avant d'atteindre le dernier carré, la Tunisie s'était montrée laborieuse. Après 3-0 et une qualification par la petite porte en huitième, elle a eu recours au tir au but pour écarter le Ghana et n'a finalement gagné son premier match qu'en quart contre la surprise Madagascar 3-0. Mais son sélectionneur estime que ses joueurs ont eu un bon état d'esprit durant le tournoi. Alain Giresse.
Là, sur le comportement, l'attitude, l'état d'esprit des joueurs, là, il y a vraiment, j'ai rien à redire dans l'approche qu'ils ont pu avoir, dans l'adhésion qu'ils ont eue sur tout le travail qui a été proposé.
Plus convaincant en poule, le Nigeria a ensuite sorti le tenant du titre, le Cameroun, en huitième, puis l'Afrique du Sud en quart, avant une élimination face à l'Algérie. Face aux Tunisiens, les Super Eagles pourront s'appuyer sur leur expérience des petites finales. Ils ont déjà fini 7 fois à la 3e place de la CAN contre 1 fois pour la Tunisie en 1962. 7 fois encore, les Nigériens veulent accrocher ce 3e rang pour finir leur compétition sur une note positive.
Je pense qu'il est mieux de rentrer avec une victoire au Nigeria, même si c'est une petite finale, qu'avec une défaite en finale. C'est un match pour le plaisir et pour aussi le spectacle, j'espère.
Guenotro, sélectionneur du Nigeria, autre enjeu de ce match, la place de meilleur buteur de cette édition, convoitée par Odayon Ighalo, seul en tête du classement avec 4 buts, le Super Eagles tentera de distancer le Sénégalais Sadio Mané et les Algériens Riyad Mahrez et Adam Ounas en embuscade avec 3 buts et qui s'affrontent en finale vendredi. Les deux formations s'apprêtent pour ce rendez-vous historique pour eux. L'Algérie avait déjà battu le Sénégal en phase de poule 1-0 et les supporters des Fennec y croient.
C'est nous qui va gagner cette coupe.
On va la gagner 3-0. Le peuple, c'est le numéro 12.
Je suis venu ici pour supporter l'Algérie, bien évidemment. Ça fait 29 ans qu'on attend ça, j'en ai 28. Bah, c'est le moment idéal. Et du coup, je vais représenter tout le monde, ma famille, le peuple. L'Algérie vient un très très grand moment. Et on en fait partie.
Est-ce que l'équipe tire sa force aussi de là ?
Bien évidemment. Généralement, on oublie vite, mais ça, tu peux pas l'oublier. Ça, c'est un moment historique qu'on n'oubliera pas.
Toujours dans l'actualité de la CAN, après le fiasco, le grand ménage, Clarence Seedorf a été limogé du poste de sélectionneur du Cameroun, de même que son adjoint Patrick Kluivert, comme nous le dit notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Gélentap.
C'est le président de la Fédération camerounaise de football qui a annoncé par voie de communiqué le limogeage de Clarence Seedorf et Patrick Kluivert. Une décision prise après consultation du comité exécutif de la FECAFOOT et concertation avec le ministre des Sports, précise le communiqué de Seydou Mboumbou Ndjoya. Lundi soir déjà, le ministre des Sports a annoncé le ton du limogeage du duo néerlandais dans une interview accordée à la télévision d'État. Les Lions indomptables se sont signalés par un jeu parfois inefficace. Leur élimination tient de l'incapacité de sélectionneur à mettre sur pied une équipe conquérante et cohérente, de sa difficulté à maîtriser l'ensemble du groupe et à y faire régner l'ordre et la discipline, a déclaré le ministre Narcisse Moelle-Combri. Avec son adjoint Patrick Kluivert, Seedorf avait signé un contrat de 4 ans, mais celui-ci comprenait pour objectif la victoire à la CAN 2019. Le Cameroun est sorti de la CAN en Égypte dès la phase des huitièmes de finale, battu par le Nigeria. Yaoundé, Emmanuel Gélentap, VOA Afrique.
Autre actualité sportive africaine, la finale de la Ligue africaine des champions se jouera sur un seul match et sur un terrain neutre à partir de 2020. Ainsi en a décidé la CAF, dont le comité exécutif s'est réuni ce matin au Caire. La même décision a été prise pour la Coupe de la Confédération. Un appel d'offres sera lancé pour désigner les villes hôtes de ces rencontres. L'ancien format prévoyait une finale en manche aller et retour. Ce changement répond à la polémique née de la dernière finale de la Ligue des champions entre le Wydad Casablanca et l'Espérance de Tunis. Un match retour à rejouer sur terrain neutre et à une date encore à déterminer en raison de la panne de l'assistance vidéo à l'arbitrage lors de la manche retour à Tunis. C'est tout pour le journal de la CAN.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et qui a toujours en votre compagnie, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Place à présent au dossier du jour. Au Burkina Faso, on ne sait toujours pas grand-chose sur la mort de 11 personnes qui étaient détenues à la prison d'une unité de la police en charge de la lutte contre la drogue. On ne connaît pas non plus leur identité. Leurs corps ont été retrouvés dans la nuit de dimanche à lundi, alors qu'ils étaient en garde à vue. Bagassi Koura a joint Ouagadougou le commissaire de police Rachid Palenfo. Il est le secrétaire adjoint de l'UNAPOL, l'un des deux syndicats de police du pays. Il nous explique ce qu'il sait de ce drame.
L'événement ne serait pas dû à une bavure policière, mais plutôt aux conditions de détention. Et ça, c'est ce que les gardes à vue nous ont dit, parce que, vous savez, les salles de détention au Burkina Faso ne répondent pas aux normes, aux exigences qui permettent de respecter convenablement les droits de l'homme.
Oui, mais ça, c'est pas nouveau. Et il n'y a jamais eu 11 morts d'un coup.
Ça, c'est pas nouveau. Il n'y a jamais eu 11 morts d'un coup. Mais que voulez-vous, monsieur? Vous ne savez pas quelle gymnastique les policiers chaque jour font pour qu'il n'y ait pas ce genre de drame. Et je vous dis encore, les gardes à vue sont témoins. Ils nous ont dit qu'ils se lavent hein, tous les jours. On leur permet de se laver deux fois par jour, le matin et puis le soir. Ils nous ont même fait savoir que des policiers ont eu à enlever de l'argent, ça veut dire leur propre salaire pour les payer à boire. Ils nous ont dit que c'est... Et là, serait dû aux conditions de détention, notamment la salle qui est exigée, notamment à l'incommodité de la salle. Vous savez, moi, je connais bien l'unité antidrogue. C'est un bâtiment de type colonial. Ce n'était pas fait même au demeurant pour les missions de police judiciaire. C'était une autre structure qui était là-bas. C'est un bâtiment qui, par la suite des circonstances, a été rétrocédé à la police. C'est un bâtiment aujourd'hui qui menace ruine. C'est un bâtiment très insalubre et très incommode.
Est-ce que tous les éléments qui sont impliqués ou qui étaient en charge de cette détenue ont été relevés de leurs fonctions, le temps de l'enquête, par exemple?
Bon, le chef de service, vous l'avez suivi. Donc, il y a des mesures conservatoires qui sont prises.
Le chef de l'unité a été relevé de ses fonctions. Qui d'autre?
Oui, on sait qu'un médecin légiste a été requis pour ça. Je sais qu'il y a des lettres d'explication qui ont été demandées. Je sais qu'une enquête a été ouverte et que des gens sont en train d'être auditionnés.
Pour bien mener l'enquête, est-ce qu'il ne fallait pas relever tous ces éléments qui étaient en poste ce jour-là et après, s'ils n'ont rien à voir, qu'on puisse les remettre à leur place?
Ça, c'est des mesures conservatoires, c'est du ressort de l'autorité.
Qui ne le fait pas jusqu'à ce jour.
Il faut faire ceci, il faut faire cela. Tout ce que nous, on peut dire, on demande à l'autorité d'être impartiale, de ne pas s'immiscer comme nous avons vu en 2011 dans une affaire judiciaire. Ce que nous avons comme salle de garde à vue, c'est tout sauf des cellules de garde à vue. Parce qu'une garde à vue, on garde la personne et on a la possibilité de la voir. Mais chez nous, avec nos violons, on ne peut pas garder quelqu'un à vue. Parce que les personnes qu'on garde là, on ne les voit pas. Donc si les policiers les voyaient, peut-être que ça n'allait pas arriver. Donc il faut qu'on travaille à humaniser nos violons.
Quel est le moral quand vous échangez avec vos hommes?
Le moral des gens est à plat. Et c'est pour ça que nous invitons encore le gouvernement à ne pas s'ingérer. Le moral est à plat.
Rachid Palenfo, secrétaire général adjoint d'un des deux syndicats de police du pays.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Le syndicat des magistrats du Tchad dénonce les dysfonctionnements dans l'appareil judiciaire. Selon le SMT, ils sont caractérisés par la libération illégale de détenus et la détention arbitraire de ceux qui ont été relâchés sur décision de justice mais qui restent en prison. Le SMT qualifie cette situation de deux poids deux mesures. André Komadjingar, correspondant de VOA, nous fait le point de N'Djamena.
Le syndicat des magistrats du Tchad affirme avoir des documents qui prouvent à suffisance qu'il y a deux poids, deux mesures dans l'exécution des décisions judiciaires. Djimé Arabi, ministre de la Justice.
Moi, en tant que garde des sceaux ministre de la Justice, si l'exécution d'une décision judiciaire peut troubler l'ordre public, je pourrais demander à ce que l'exécution de cette décision soit arrêtée. En dehors de ça, je ne sais pas pourquoi je dois écrire pour demander l'arrestation et la libération d'un justiciable.
Les cas qui défraient la chronique selon les magistrats sont en entre autres la condamnation d'un sous-préfet à 18 mois de prison ferme et qui n'a jamais été en prison, et l'annulation par un acte des autorités judiciaires de la décision de la chambre d'accusation annonçant la nullité de la procédure dans un dossier. Pour Djonga Arafi, secrétaire général du SMT, le ministre est bel et bien au courant de ce dysfonctionnement.
Nous avons conduit une mission qui a rencontré le ministre Garde des Sceaux pour lui faire part de ces agissements. Nous avions été amadoués par les propos du ministre selon lesquels des choses pareilles ne vont plus jamais se répéter à l'avenir, mais nous avons des gens qui sont condamnés à des peines fermes. Ils retrouvent la liberté totale par un simple acte. Des cas où des gens qui sont soit condamnés à des peines sursitaires, soit ils bénéficient de la liberté dont on refuse de les libérer.
Tout est parti de la saisine du bureau exécutif du syndicat des magistrats du Tchad par deux cabinets d'instruction faisant état de l'ingérence des autorités de la chancellerie dans le fonctionnement des différentes juridictions. Djimé Arabi, ministre de la Justice, refute ces allégations et qualifie cette sortie médiatique de dilatoire.
On ne peut pas du tout, au niveau de la justice, se permettre de faire des libérations illégales ou bien des détentions arbitraires. Peut-être que je ne suis pas au courant. Ils auraient pu se rapprocher de moi pour me dire qu'il y a tel ou tel cas. J'étais tombé de nu.
Maître Lokulde Francis, dont trois de ses clients étaient victimes de ce dysfonctionnement, salue le courage des magistrats qui sont sortis de leur silence.
Conformément aux dispositions de l'article 450 de notre code de procédure pénale, mes clients devaient être mis immédiatement en liberté. Malheureusement, ils n'ont pas été libérés jusqu'à ce que la condamnation ferme de la cour d'appel s'ensuive. Si aujourd'hui les magistrats se sont retrouvés pour débattre du dysfonctionnement de la justice, on ne saurait que s'en réjouir.
Le président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme, Midaï Guérimbaï, salue lui aussi le courage des magistrats, bien qu'ils soient tenus au droit de réserve, mais ont pointé du doigt le vrai problème qui entrave le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire. Il plaide pour une véritable séparation de l'exécutif et du judiciaire au Tchad. André Kodmadingar Ndjamena, VO Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Direction l'Afrique du Sud pour parler de Pellbox, un casier intelligent qui apporte un grand changement dans la manière dont les médicaments sont distribués dans les établissements de santé. C'est une initiative de Néo Outouri qui n'a pas pu être réalisée que grâce à l'obtention du prix Afrique de la Royal Academy of Engineering, un prix créé en 2014 pour récompenser l'innovation en ingénierie. Les précisions de John Linden.
Néo Outouri ne pouvait espérer mieux. Il est devenu le premier Sud-Africain à remporter le prix Afrique de la Royal Academy of Engineering, doté de 25 000 $, après avoir conçu Pillbox, un système de casier intelligent qui distribue des médicaments aux patients atteints de maladies chroniques. Néo Outouri, fondateur de la société sud-africaine Pillbox, évoque ici la genèse de son projet. J'ai été formé pour élaborer des solutions et des produits. Et je me suis dit, pouvons-nous construire un produit centré sur le patient? Cela nous concerne d'abord en tant que patient, tout en respectant toutes les exigences réglementaires et tout le cadre que le ministère de la Santé veut mettre en place pour améliorer l'accès aux soins. C'est en voyant que les patients passaient trop de temps dans les files d'attente pour collecter leurs médicaments dans les établissements de santé que Néo Outouri a développé ce concept qui permet aux malades de recevoir sur leur téléphone une alerte et un code ping qui leur permet d'avoir accès à leurs médicaments. Un système que beaucoup de pharmaciens apprécient. Ngoche Ndate est pharmacien.
La machine facilite les choses parce que certains patients diraient que venir à la clinique est déjà stressant pour eux et qu'attendre ensuite un médicament, c'est un autre stress.
Le casier intelligent semble également avoir trouvé un accueil favorable auprès des patients et beaucoup ne cachent pas leur satisfaction. C'est le cas de Paulina Missingi, une patiente qui utilise Pillbox.
Pillbox va bien, ce n'est pas stressant. Par exemple, quand je reçois un message sur mon téléphone, je peux aller le chercher le lendemain. Même si j'ai du travail à faire, je peux aller chercher mes médicaments. Je n'ai pas besoin d'attendre dans de longues files à la clinique. Donc, alors je viens, je prends mes médicaments et je pars. Cela me rend heureuse.
Néo Outouri, qui dit avoir été surpris par son prix, qui récompense l'innovation en Afrique, travaille actuellement à l'amélioration des pillbox et à la fabrication de plusieurs unités.
Abdourahmane Dia avec vous dans Washington Forum. Il y a 50 ans, cette semaine, trois astronautes, Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins, entraient dans l'histoire en se posant sur la Lune. Un événement majeur dans la conquête spatiale qui évoluera de la rivalité entre les États-Unis et l'ex-Union soviétique à la possibilité d'envoyer des touristes dans l'espace dans quelques années, en passant par le lancement de milliers de satellites depuis par plusieurs pays. L'Afrique, elle, essaie de prendre le train en marche. Nous allons évoquer tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel, dans Washington Forum. Vous pouvez réagir sur la page Facebook de VOA Afrique.
Au Bénin, l'expédition de l'homme sur la Lune reste un souvenir gravé dans les mémoires et les cœurs de beaucoup de Béninois. Certains l'ont vécu en direct par la radio, d'autres l'ont lu dans les journaux ou dans les livres d'histoire. Ils sont tous unanimes à penser que la mission Apollo 11 a changé irrémédiablement l'histoire de l'humanité. Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleurendende.
Noël Ewaignon est âgé de 64 ans. Il se rappelle avec émotion, l'oreille collée à la radio, les informations ce 20 juillet 69 annonçant les premiers pas de l'homme sur la Lune. L'événement était aussi accompagné par une épidémie de conjonctivite dans presque tous les pays d'Afrique de l'Ouest et depuis, la conjonctivite est surnommée Apollo.
Dans les années 71, il y a eu cette épidémie de conjonctivite et que les gens ont appelé tout de suite Apollo parce qu'ils disaient que c'était suite aux microbes ramenés de l'espace que il y a eu cette maladie-là. Cet événement aussi, disons quelque part, faisait la réalisation d'une des prophéties du président Kennedy qui avait affirmé que les hommes, les Américains poseraient les pieds sur la Lune avant les années 70. Ce qui s'est réalisé, tout le monde en était content, on en a beaucoup parlé.
Stephen Johnson n'avait que 4 ans en 1969, mais plus tard à l'école, il apprendra dans les livres ce qu'il appelle espoir pour la suivi de l'humanité.
Cette information était une première à l'échelle mondiale parce que un homme sur la Lune, c'était donc la preuve que la vie était possible ailleurs que sur la Terre et donc augurait de nombreux espoirs. Ça commençait à apporter des réponses à certaines questions. Y a-t-il une vie ailleurs? Comment ça se passe?
Si pour la génération des années 69, Apollo 11 a joué un rôle déterminant dans l'évolution scientifique et technologique du monde, pour les jeunes, la réalité est tout autre. Yannick Maouillon est un jeune diplômé qui estime qu'il n'y a pas d'impact sur le coût de l'histoire du monde.
Les problèmes de l'humanité sont tellement énormes que aller sur la Lune, pour moi, c'est comme résoudre des équations des scientifiques. Pour moi, ça n'a aucun impact sur l'évolution de l'humanité. Pour les scientifiques, certainement oui, mais pour moi, non.
Anita Marcos, journaliste de profession, pense pour sa part que Neil Armstrong a ouvert la voie à bien du succès scientifique.
Apollo 11 n'était justement pas la première tentative pour aller sur la Lune. Et c'est justement cette mission-là qui s'est révélée être le meilleur essai parce que justement les hommes ont pu aller sur la Lune et ça a ouvert la voie à des progrès, à des avancées notoires dans le domaine spatial mondial, je vais dire.
Pour Eddie Dainho, jeune communicant, même si ce n'était pas Neil Armstrong, un Américain serait quand même le premier à poser les pas sur la Lune. Pour les 50 ans de cette expédition, le département scientifique de l'Université d'Amomé-Calavi prévoit des journées portes ouvertes afin de faire connaître à qui le désire l'histoire d'un petit pas de l'homme sur la Lune, un pas de géant pour l'humanité. De Cotonou, Ginette Fleurendende pour VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À la mise en onde, Lionel Gaïma, à la console, Justin Twist, à la présentation, Ekia Badou. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com.
Bienvenue à bord.